Bonjour, monsieur Hélico du projet d'appui à la gouvernance à zone extractive. Monsieur Hélico, si vous présentez-vous.
Bonjour, monsieur Souma. Je suis Abdrahimi Hélico Diallo, chargé des programmes du CICI Guinée, représentant madame la directrice du CICI Guinée, mais également responsable de suivi et évaluation du projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive à Boki.
Merci, monsieur Hélico. Ceci dit, je voudrais vous demander de nous présenter votre projet et qu'est-ce qui a motivé sa création.
Bon, le projet de la gouvernance et la croissance économique en zone extractive est un projet initié par le gouvernement du Canada en partenariat avec le CECI, entendez Centre canadien d'études de la coopération internationale, et l'entrée de l'Université mondiale du Canada. Ce qui a motivé ce projet, c'est suite à un constat alarmant dans les zones extractives, notamment dans les pays africains, où un constat a été fait, où les sous-sols sont tellement riches en Afrique. Malheureusement, cela se répercute peu au niveau des communautés qui sont directement impactées par ces sociétés minières et par ces exploitations minières. Voilà ce qui a motivé, et des rencontres ont été initiées avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère des Mines, pour exprimer ce bien fondé où le CECI et l'IMC ont souhaité travailler avec l'État guinéen pour aider les collectivités locales à bien s'approprier du processus de développement, mais également à bénéficier des retombées de ces exploitations minières dans leur localité.
Merci, M. Hélico. En ce cas, à travers quels moyens vous comptez développer donc ces zones ciblées dans votre projet?
La première des choses, le projet, c'est un projet de renforcement de capacité. Pour ce projet de renforcement de capacité, il reçoit également un appui financier d'environ 19 millions de dollars canadiens pour trois pays, que sont la Guinée, le Burkina Faso et le Ghana. Et à partir de ce fonds financé par le gouvernement du Canada, le CECI et l'entrée de l'Université mondiale du Canada ont également fait une contribution aussi bien financière qu'en ressources humaines pour accompagner les services techniques de l'État qui interviennent dans ce cadre-là, mais également accompagner les différents ministères sectoriels qui sont directement concernés pour appuyer les communautés qui sont directement impactées pour que ceux-ci comprennent c'est quoi les revenus miniers, comment s'impliquer à la planification locale et comment gérer ces ressources-là minières et comment penser à l'après-bauxite. Donc, par rapport aux ressources, il y a les ressources financières du gouvernement du Canada, il y a les ressources financières mobilisées par le CECI, il y a les compétences techniques mobilisées par le CECI en tant que tel, il y a le travail en partenariat avec les cadres des départements ministériels concernés en tant que tels, y compris l'ITIE et les organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons profondément, pour voir comment renforcer les capacités de toutes ces structures pour qu'ensemble nous ayons au niveau des collectivités locales, travailler avec les collectivités locales, travailler avec les élus locaux, travailler avec les gouvernements locaux et les services techniques déconcentrés de l'État pour avoir des planifications cohérentes qui tiennent compte des préoccupations des jeunes, des préoccupations des femmes au niveau de la zone d'impact des différents projets miniers, notamment dans la zone de Boké, pour voir comment on pourrait améliorer l'emploi et l'employabilité des jeunes dans ces collectivités locales pour que jeunes et femmes qui, au lieu juste de parler, peut-être de se manifester, dire qu'employez-nous, employez-nous, mais créer les conditions, créer des moyens pour qu'ils s'auto-emploient dans leur collectivité locale.
À ce titre, M. Hélico, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenu dans le cadre de la mise en œuvre de cette gouvernance à zone extractive et quel est l'avenir du projet?
Donc, c'est un projet d'une durée initiale de 5 ans, Mais avec toute la planification locale et l'élaboration du plan de mise en œuvre du projet qui a duré presque une année avant la validation de notre bailleur de fonds qui est le gouvernement du Canada, le projet a été prolongé. Donc c'est un projet d'une durée de 6 ans où nous sommes en début de la 4e année, cette année. Ce projet, je l'avais dit tantôt, il est financé par le gouvernement du Canada à hauteur d'environ 18,9 millions de dollars canadiens, mais répartis entre les 3 pays. Et il y a la contribution du gouvernement, pardon, la contribution des ONG, que sont le CICI et l'entraide universitaire mondiale du Canada également, qui se rajoutent à cette contribution du gouvernement du Canada en tant que tel. À date, nous avons vraiment travaillé avec les collectivités locales pour la formation notamment des jeunes et des femmes en entrepreneuriat, pour qu'eux-mêmes soient des vrais entrepreneurs, soient leurs vrais employeurs au lieu de se tourner vers les sociétés minières en tant que telles. On a des chiffres concrets. Il y a eu 400 à peu près 16 personnes qui sont formées et outillées sur les codes, les différents codes au niveau local ici, que sont les codes des collectivités locales, les codes miniers, le code de l'environnement et les guides en matière d'égalité femmes et hommes et en économie verte en tant que telle. Ces guides ont été non seulement produits, validés par les départements sectoriels, mais également validés par l'ITE qui ont permis la vulgarisation de ces outils au niveau de toutes ces collectivités locales. Également, il y a eu plus de 1500 jeunes qui sont formés en entrepreneuriat de base. Donc, ils ont été initiés à l'entrepreneuriat. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec ces jeunes, d'abord pour prendre les meilleurs qui ont des plans d'affaires consistants actuellement, les recevoir dans un incubateur, et une cinquantaine devrait sortir de ces incubateurs-là et vont bénéficier des financements directs et indirects. On va les accompagner aussi bien dans le financement de base, mais les diriger également vers les banques commerciales ou les institutions de microfinance ou les sociétés minières ou les agences de l'État qui existent pour bénéficier du financement complémentaire. Également, nous avons 345 entrepreneurs qui ont été structurés et qui sont formés. Et parmi ces entrepreneurs, on a 20% des entrepreneurs qui sont dirigés par des femmes. On a également travaillé avec l'Institut supérieur de mines et de la géologie de Bokeh pour voir dans quel cadre certains aspects de préoccupation en matière de l'emploi, en matière de besoins du marché, comment ces éléments, ces modules-là pourraient être retravaillés pour que ces modules soient intégrés dans le cursus de l'université, pour qu'au sortir de ces universités, ces jeunes étudiants, ces jeunes femmes et ces jeunes filles qui sortent de ces universités-là s'approprient de ces outils-là et s'approprient en fonction des besoins du marché en tant que tel. Également, nous avons cherché à travailler avec des formateurs professionnels qui sont reconnus dans ce pays-là et nous avons accompagné la formation d'IFONIGE en tant que tel. Et nous, ensuite, nous avons accompagné près de formation pour qu'eux-mêmes soient outillés pour donner les formations en entrepreneuriat en tant que tel. Également, ce qu'il faut reconnaître à travers ce accompagnement et en partenariat avec la CBG, nous avons 48 groupements d'intérêt économique qui sont aujourd'hui structurés, mais qui ont reçu de financement où il y a eu des investissements concrets, des aménagements, des clôtures grillagées, des magasins, des ouvrages de franchissement au niveau des zones de production en tant que telles qui sont réalisées grâce à la synergie que le projet a développée avec la CBG en tant que telle sur le terrain. Il y a également 59 PME qui ont été accompagnées dans ce cadre de la formation en matière de mise en relation et de coaching en tant que telle, et des 38 contrats commerciaux ont été signés entre les entreprises que nous accompagnons, les PME que nous accompagnons, et soit les sociétés minières, soit entre les entreprises en tant que telles. Voilà, entre autres résultats, qu'on a pu sortir en tant que telles, mais au niveau des plateformes de dialogue, on a travaillé également avec les parties prenantes qui sont impliquées dans ces projets en tant que tel, notamment au niveau de la région de Boké, où nous avons travaillé avec les autorités préfectorales, les autorités régionales, les autorités sous-préfectorales, mais également les élus, les sociétés minières et les organisations de la société civile. Également, nous avons travaillé avec la GIZ, qui est également un des partenaires qui travaille en zone extractive en tant que tel dans la plateforme. Et nous avons travaillé également avec le projet AGREM. Le projet AGREM également, dans le cadre de mutualiser nos efforts dans les zones d'impact en tant que tel, pour éviter la redondance des interventions auprès des mêmes communautés en tant que tel, et avoir des planifications qui peuvent être maintenant, qui doivent être cohérentes. Et nous avons également travaillé avec le PACV et l'ANAFIC, qui également sont des partenaires privilégiés en tant que tels, parce qu'eux-mêmes travaillent avec les collectivités à la base. Voilà, entre autres résultats, que nous avons pu sortir, sans parler du fonctionnement du projet comme tel, mais nous avons organisé même un forum régional où on a eu 5 pays qui ont été représentés avec tous les départements ministériels sectoriels. L'ITIE a fait sa présentation même au cours de cet échange, et nous avons pu également partager les expériences de différents projets, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional, notamment au Ghana et au Burkina Faso, où l'ITIE a été également partie prenante, étant déjà membre actif de notre plateforme de concertation.
Justement, c'est sur cette question que j'allais répondre, les relations avec l'ITIE, puisque déjà vous en avez parlé. Donc, je vais vous demander de nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise en œuvre de votre projet.
Actuellement, l'un des problèmes majeurs, comme je vous disais, le projet, c'est un projet de renforcement de capacité, même si nous avons quelques ressources. Mais les besoins sont tellement énormes au niveau des jeunes minières, au niveau des jeunes et des femmes. Le gros problème, c'est comment mobiliser les ressources. Comment avoir les ressources pour financer les projets et les micro-projets des jeunes qui sortent de ces formations, qui sortent avec des plans d'affaires bancables, avec des projets vraiment bancables, mais les ressources étant limitées, il n'y a pas de banque de développement en tant que telle, il n'y a pas de... Les banques actuellement, le taux auquel ils octroient les fonds est élevé, donc les ressources financières, c'est le problème majeur. Autre problème, c'est vraiment la concertation profonde. On a commencé la concertation, mais en termes de vitalisation de ces structures de concertation, il y a également du travail à faire à ce niveau. C'est comme si, même si des initiatives existent, mais c'est un travail qui mériterait d'être vraiment revu et travaillé. Et à la limite, pourquoi pas l'État, les sectoriels de l'État accompagnent ce processus. Parce qu'un cadre de concertation reste un cadre de concertation, mais son avenir dépend de la volonté politique, de l'appui et de l'accompagnement, aussi bien technique que de l'accompagnement financier. L'État devrait faire un effort à ce niveau, parce que si je prends juste la zone de Boké, on a plus de 13 sociétés minières qui travaillent. On a plus de 7 projets qui travaillent dans la même localité, c'est avec les mêmes communautés. Des fois, les communautés ont du mal à se retrouver. Chaque projet a son approche. Il faudrait qu'il y ait vraiment une certaine coordination, même si ce n'est pas une harmonisation, mais une certaine coordination des interventions pour que les approches vraiment soient plus ou moins proches, mais également complémentaires en tant que tel, parce qu'on a le même public cible. Donc, en termes de concertation, il y a également un élément important. Autre élément important qui relève de la gouvernance, c'est vraiment c'est la redevabilité en tant que telle au niveau des communautés locales. Ce n'est pas la culture de redevabilité n'existe pas forcément actuellement dans le pays. Il y a du travail à faire. Il y a des élus qui pensent qu'ils n'ont de comptes à rendre qu'à leur parti politique ou à personne qui les désigne, pas aux communautés ou en tout cas à la population qui les a élus à ces différents postes-là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments à faire en termes de gouvernance locale, en termes de redevabilité, mais également dans la planification locale, chaque projet a des outils de planification. Certes, il y a le guide harmonisé au niveau de planification édité par le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation, mais c'est un travail qui mériterait d'être raffiné. Peut-être l'idée des communes convergentes, c'est une bonne idée qui commence, mais il faudrait élargir cette idée-là au niveau des autres projets et programmes, et surtout au niveau des sociétés minières en tant que telles. L'ANAFIC qui commence, le FODEL qui commence, je pense que c'est des éléments importants, parce que même dans la conception de notre projet, on pensait renforcer, mais les gros fonds devraient venir de ces fonds miniers, de ces FODEL, de ces fonds nationaux de développement local, pour booster le développement local au niveau de ces sociétés minières. Dieu merci, l'État a fait un pas intéressant à ce niveau-là. Les fonds sont devenus des fonds concrets, ce n'est pas des fonds sans fonds, et ça commence déjà à bouger. Maintenant, le travail à faire, c'est de réfléchir pour ne pas encore tomber dans le piège des politiques. Parce que les politiques, c'est les infrastructures visibles qui cherchent. Comment construire des postes de santé, quel nombre de postes de santé on a construit, quelle école on a construit, alors que les gens ont besoin d'abord de manger, ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de l'argent. Et comment développer des activités génératrices de revenus, surtout que les mines ne sont pas éternelles. Les mines vont finir, il faut passer à l'après-mine. Voilà.
Merci bien, M. Rico. Donc, avant de terminer, je vais vous poser une dernière question qui nous vient souvent dans vos présentations, dans vos langages. Beyond Zero, qu'est-ce que ça veut dire?
Au fait, Beyond Zero Harm, c'est un outil qui permet d'évaluer avec les communautés pour que les communautés elles-mêmes apprécient c'est quoi leur bien-être. C'est sûr qu'il y a beaucoup de projets qui financent les communautés. Des fois, on finance des infrastructures visibles. Des fois, on finance des formations. Des fois, les sociétés minières font des reboisements ou tel. Mais est-ce que pour les communautés, c'est ça leur bien-être? Donc le Beyond Zero Harm, c'est une réflexion qu'il faudrait faire avec les communautés. C'est un outil de réflexion qui permettrait aux communautés de prendre une décision en matière de développement. Certes, les infrastructures économiques sociales sont pertinentes, les infrastructures économiques sont pertinentes, mais c'est quoi le réel besoin, pas en termes de planification, mais en termes de bien-être. Et c'est ces éléments-là qui devraient permettre aux planificateurs de prendre des décisions et des bonnes décisions de planification. C'est ça le Beyond Zero Harm. Et c'est une recherche qui est en train d'être faite et qui prend vraiment de l'ampleur, en tout cas au pays du Nord, où il y a des exploitations minières, et c'est ce qu'on est en train de voir, la possibilité de l'intégrer, et les résultats que nous avons eus avec la commune pilote pour cette phase-là, qui est la commune de Sangaregui, nous donne vraiment des résultats très intéressants que nous pourrons démultiplier pour le reste de l'année avant la capitalisation des résultats du projet.
Merci bien, M. Rico, pour cette présentation très, très brillante, vraiment de l'AGCI2. Et certainement, nous allons revoir pour un autre podcast. Merci beaucoup.
Merci, M. Souma. C'est à moi de vous remercier au nom de la directrice du CECI et au nom de toute l'équipe du CECI, aussi bien CECI Guinée que CECI Montréal. Et vous rassurez que le CECI, en fonction de sa mission de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, et surtout à contribuer au développement des pays, permettez-moi la tautologie, en développement en tant que tel, serait vraiment encore disponible à collaborer avec l'ITIE dans le cadre de la gestion des différentes ressources, mais également dans le cadre de la transparence dans la gestion, mais aussi en matière de redevabilité auprès des communautés. Et nous sommes vraiment très ouverts et nos bureaux sont ouverts. Vous êtes membre du comité de coordination du projet, vous connaissez le projet, vous connaissez ce qu'il y a à faire en tant que tel, et nous comptons également sur votre appui pour qu'on ne prenne que des bonnes décisions là-dessus au bénéfice des communautés qui sont touchées par le projet. Une fois encore, je vous remercie. L'ITIE, c'est un partenaire vraiment idéal pour nous, pour la transparence, et nous allons vraiment travailler avec l'ITIE, continuer à travailler avec l'ITIE. Je vous remercie.